Le journal avec vous, François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. Une grosse affaire de trafic de stupéfiants devant le tribunal pénal cantonal à Porrentruy. Trois personnes comparaissent depuis ce matin. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à un trafic de cristal meth. Des castors créent quelques soucis à la ville de Bienne. Les animaux ont construit un barrage sur la Suze de Madretsch. Les autorités vont prendre des mesures pour garantir la protection contre les crues. Environ 77 mégots de cigarettes en moyenne jonchent le sol de chaque aire de jeu en Suisse. Une enquête précise qu'ils sont toxiques pour l'environnement et peuvent représenter un danger pour les enfants. Météo, une couche de nuages va recouvrir la région. Demain, le soleil devrait donc se faire très discret. Les températures se situeront entre 1 et 4 degrés maximum dans l'après-midi. Une importante affaire de trafic de drogue occupe depuis ce matin le tribunal pénal cantonal à Porrentruy. Trois personnes comparaissent pour infraction à la loi sur les stupéfiants, à la loi sur la circulation routière et pour blanchiment d'argent qualifié notamment. Le montant minimal des bénéfices réalisés s'élèverait à 200 000 francs. Le principal prévenu et son acolyte doivent entre autres répondre de trafic de cristal meth, une drogue qui s'est énormément répandue dans le Jura dès 2018. Le canton est devenu un vrai centre de ravitaillement bien organisé. Le point avec l'inspecteur de la police jurassienne et membre de la brigade des stupéfiants, David Schneider.
Le cristal meth au Jura depuis les environs de 2017, où on a vu une augmentation des consommateurs. Et ensuite, ça s'est enchaîné 2018-2019 avec des trafiquants qui sont venus dans notre région et qui ont pris vraiment de l'ampleur jusqu'à même fournir d'autres cantons, notamment des cantons limitrophes.
Que fait la police quelque part? Vous avez des moyens de lutter efficacement? Là, il y a certes ce procès, mais on est encore touché fortement aujourd'hui?
Heureusement, on peut dire que ça a fortement diminué, notamment depuis une année où il y a eu d'autres arrestations, d'autres enquêtes qui ont eu lieu entre-temps. Et la consommation, le produit cristal meth sur le marché actuellement au Jura est en nette diminution. Il y a même des consommateurs qui nous disent que c'est devenu difficile d'en trouver à l'heure actuelle.
Le cristal meth, vous avez également évoqué sa dangerosité véritablement.
Oui, c'est juste, c'est extrêmement dangereux, extrêmement addictif. Une seule prise et vous avez la main dedans, vous ne pouvez plus arrêter. Le cristal meth a un effet 4 fois supérieur à la cocaïne. C'est une addiction psychologique, pas physique. C'est vraiment psychologiquement qu'on est ensuite complètement dépendant dès la première prise.
Des propos recueillis par Raphaël Chalvera. Dans le réquisitoire du ministère public, le procureur Laurent Crevoisier a requis 8 ans et demi de prison ferme contre le principal prévenu, 5 ans de prison ferme contre le deuxième accusé, qualifié d'homme de main, et 2 ans de prison, dont un avec sursis contre la troisième prévenue, l'ami du premier. Les avocats de la défense ont plaidé respectivement pour des peines de 5 ans et demi de prison ferme, 3 ans de prison, dont 6 mois ferme, puis une peine de 150 jours amende avec sursis. Le jugement sera rendu vendredi. Un atelier de confection de Kriti Benz pour sensibiliser à la diversité. L'association Pro Infirmis a reconduit son action nationale « Tous de la même pâte » pour faire honneur à la Journée internationale des personnes handicapées qui aura lieu samedi. L'action se traduit dans le Jura par un atelier de Kriti Benz. Une douzaine de personnes avec ou sans handicap se sont retrouvées cet après-midi dans la boulangerie de Courtetel pour confectionner des bons hommes en pâte. Émilie Charmillos s'est glissée parmi elles son reportage.
On va commencer par faire une pâte. La pâte à Kriti Benz, c'est essentiellement farine, sucre, beurre, œuf, levure, sel. Et puis on met un arôme citron pour donner un peu de goût.
Julien, vous êtes en train de commencer votre Kriti Benz. Comment ça se passe?
J'ai fait mon Kriti Benz. La technique, il faut bien avec les mains. Et puis faire comme un boudin.
Voilà. Comme je dis, je le fais à la main, qui est très pratique.
Sylviane, vous êtes en train de faire votre Kriti Benz, il prend forme.
Il y a déjà la tête, c'est déjà pas mal. J'attends le couteau pour faire les jambes et les bras. J'espère faire quelque chose de bien.
Et là, pour l'instant, il vous plaît votre Kriti Benz?
Oui, il a une bonne forme de tête. J'ai du plaisir à faire ces petits bonhommes.
Salvatore Mauro, vous êtes le boulanger qui proposait l'atelier de Kriti Benz. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied cet atelier et à proposer ça aux personnes?
Bah alors en fait, j'ai eu contact avec Pro Infirmis, puis c'est eux en fait qui m'ont demandé d'avoir un petit entretien pour montrer comment se déroulait la création de Kriti Benz. Et puis ben voilà, il m'est venu à l'idée de faire un petit atelier comme ça, comme tout le monde peut participer et chacun va faire son Kriti Benz, son idée, comment ce qui il pourra le fabriquer par lui-même.
Et c'est quoi le secret pour faire un bon Kriti Benz?
Il n'y a pas forcément de secret à avoir, c'est simplement un peu d'imagination et puis se projeter dans la confection d'un bonhomme. Et puis ben voilà, il faut un corps, il faut une tête, il faut des bras, des jambes. Après on peut rajouter une cravate, des chaussures, des gants. C'est la créativité de tout un chacun en fait.
La créativité tout à chacun qui regroupe aussi cette idée d'inclusion.
Exactement, nous sommes tous égaux.
Luna, qu'est-ce que tu as envie de mettre à ton Kriti Benz?
Oh, attends, une branche.
Et avec ou sans branche, les participants sont tous repartis de l'atelier avec leur bonhomme en pâte. 10 boulangeries jurassiennes partenaires vendront des Kriti Benz différents pour sensibiliser à la diversité samedi. Des castors ont pris leur quartier sur la Suze à Bienne. Plusieurs rongeurs, probablement une famille, ont construit une hutte le long de la rivière dans le quartier de Madrecche. Le barrage a pour effet de réduire le débit de la rivière. Il est aussi susceptible de poser certains problèmes en cas de fortes précipitations. En collaboration avec le garde-faune, la ville de Bienne a présenté aujourd'hui un plan qui comprend plusieurs mesures pour éviter que la rivière ne déborde. Plus de détails avec la responsable du secteur de l'évacuation des eaux urbaines de la cité sélandaise. Vera Wirtsch.
Wir beobachten regelmäßig die Einstauhöhe, also das gestaute Wasser oberhalb des.
Nous observons régulièrement le niveau de l'eau qui est bloqué par ce barrage de Castor. Nous avons des gens qui contrôlent régulièrement cela et si on voit que ce niveau devient trop haut, alors nous regarderons pour le faire redescendre, ce qui serait possible grâce à un système de drainage qui passe à travers le barrage. Par ailleurs, nous pouvons aussi contrôler l'afflux de la Suze, ce que nous n'avons pas encore fait pour le moment.
Auch da achten wir darauf, dass wir daran im Moment sicher nichts ändern.
Des propos traduits par Natacha Mengoli. Le castor est une espèce protégée. La ville de Bienne n'a pas le droit de détruire le barrage, sauf en cas d'extrême urgence. Plus de 400 mégots ramassés sur une place de jeu pour enfants. L'association Stop to Drop a mené une action en Suisse alémanique et au Tessin. Elle a examiné une quarantaine de places de jeu. Les résultats dévoilés aujourd'hui sont inquiétants. 77 mégots ont été trouvés en moyenne sur chaque place de jeu. L'association a envoyé un courrier aux communes concernées pour les sensibiliser à cette pollution. La responsable de la communication chez Stop to Drop, Julia Leyola.
Nous, on ne veut pas culpabiliser les communes. Elles font un travail absolument génial. Elles dépensent 52 millions de francs par année sur toute la Suisse pour nettoyer rien que les cigarettes et les mégots. Donc ça, c'est pas notre but du tout. Nous, au lieu de ça, on veut vraiment inviter les gens à se poser la question, qu'est-ce que je fais avec mes mégots?
Vous pensez qu'une solution, ce serait de faire que les places de jeu, ce soient des espaces non fumeurs, par exemple?
Alors bien sûr, ce serait super si les places de jeu étaient non fumeurs. D'un côté, il y a les mégots qui dérangent. De l'autre côté, il y a quand même le fait que si un enfant voit une personne plus âgée fumer, tout le temps ou même de temps en temps, ça normalise la situation. Alors, au niveau des statistiques, si un enfant voit une personne plus âgée fumer, ça augmente la probabilité que les enfants commencent plus tard à fumer jusqu'à 3 fois.
Oui, l'association attend désormais la réaction des communes et du public. Si elle est positive, elle étendra son action plus largement en Suisse. 2 nouveaux conseillers fédéraux seront élus dans une semaine. Le premier succédera à Uli Maurer et la seconde prendra la suite de la socialiste Simonetta Sommaruga. Jusqu'à demain, nous vous proposons de découvrir les portraits des 4 candidats. Dans le journal de midi, vous avez pu entendre les motivations de l'UDC bernois Albert Rösti. Ce soir, place aux Zurichois Hans-Uli Vogt. L'homme est décrit comme un intellectuel et comme un citadin. Avocat, professeur de droit, ouvertement homosexuel, il n'a pas forcément le profil type des agrariens et pourtant Hans-Uli Vogt.
Il faut bien dire que l'UDC comprend comme électeurs et électrices aussi les gens des villes, des agglomérations, aussi les intellectuels, etc. Je suis un représentant de l'UDC, comme un autre aussi.
Quand on fait de la politique et qu'on est homosexuel, on a envie de dire en plus qui plus est à l'UDC, c'est parfois de la souffrance.
J'ai jamais souffert de mon orientation sexuelle, c'était toujours une partie de moi. Maintenant, dans le contexte où on se trouve, on parle d'une élection d'un membre du Conseil fédéral. Ce n'est pas un fait important si on regarde aux questions politiques qu'il faut résoudre dans ce pays. Donc l'orientation sexuelle d'un membre du Conseil fédéral ne joue aucun rôle.
Vous avez quitté le Parlement il y a presque une année maintenant, après seulement 6 ans, parce que vous ne vous y sentiez pas forcément très à l'aise.
Pourquoi maintenant briguer une place au Conseil fédéral ?
Comme parlementaire, on est dans un système de milice et j'ai une profession comme professeur et avocat qui me remplit pleinement. Et puis les deux engagements, c'est très très intense. Il y a peu de synergie. Quand je me suis retiré, j'ai dit je vais rester en politique. Je pourrais m'imaginer d'être parti d'un exécutif. Et maintenant, avec cette chance, ce serait un changement de profession. Donc j'aurais plus les deux mondes à réunir. Je m'engagerai pleinement pour le pays comme membre d'un exécutif.
Votre candidature, elle est arrivée au dernier moment. Est-ce que c'est vous qui avez réfléchi longtemps ou est-ce qu'on est venu vous dire « Ah, comme Zurichois, on a besoin d'un candidat ?»
On m'a demandé, c'est correct, et puis j'ai pris mon temps parce qu'après tout, on parle de ce qui peut être un changement fondamental du point de vue personnel. Et bien sûr, il faut du temps pour y réfléchir. Est-ce que je veux ou je peux aussi devenir un membre de ce gremium ?
Des propos recueillis par Serge Hubin. Demain, nous entendrons la socialiste jurassienne Elisabeth Baumschneider dans le journal de 12h15 et la baloise Eva Herzog dans notre édition de 18h. À l'étranger, la présidence ukrainienne a salué la proposition de l'Union européenne de travailler à la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie en Ukraine. C'est exactement ce que nous proposions depuis longtemps. C'est féliciter le chef de cabinet de la présidence ukrainienne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué aujourd'hui que l'Union européenne allait proposer la mise en place d'un tribunal spécial soutenu par l'ONU. Enfin, H&M a annoncé aujourd'hui la suppression de 1500 postes dans le cadre de son plan d'économie annoncé en septembre. Le programme de coûts et de rentabilité implique de revoir notre organisation et nous sommes conscients que nos collègues en seront affectés, a déclaré la patronne du géant suédois de la habillement. H&M vise des économies annuelles d'environ 180 millions de francs.
RFJ, il est 18h12.
Sport. En football, l'Australie décroche le deuxième ticket du groupe D pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Elle a battu cet après-midi le Danemark 1-0 lors du dernier match de poule. Déjà qualifiée, la France termine en tête du groupe malgré sa défaite 1-0 contre la Tunisie. Les formations du groupe C seront en lice quant à elles à partir de 20h. L'Argentine affrontera la Pologne et l'Arabie Saoudite en découdra contre le Mexique. Les quatre formations peuvent encore prétendre aux huitièmes de finale. En ce qui concerne l'équipe de Suisse, le feu devrait être ouvert pour Sherdan Shaqiri et Noah Okafor. Djibril Sow s'est voulu rassurant aujourd'hui devant la presse. Le milieu de terrain de l'équipe nationale a indiqué que ses deux coéquipiers s'étaient entraînés normalement et qu'ils devraient pouvoir jouer vendredi lors du match décisif contre la Serbie. Et vous retrouvez toute l'actualité du Mondial au Qatar dans notre journal de la Coupe du Monde tout à l'heure à partir de 18h30. Carnet noir dans le monde du cyclisme. L'Italien Davide Rebellin a perdu la vie dans un accident de la circulation à Montebello Vicentino en Vénétie. Il a été percuté par un camion qui ne s'est pas arrêté. Le coureur est mort sur le coup. Enfin, hockey sur glace, le HC Ajoie enchaîne. Les Jurassiens prennent la route 24 heures après leur défaite à domicile face à Kloten. Ils défient Zurich ce soir à 19h45 dans le championnat de National League. C'est la première fois que le HCA jouera dans la nouvelle patinoire des LSC Lions qui occupent la troisième place au classement. De leur côté, les Jaunes et Noirs restent derniers et tenteront de mettre fin à une série de 9 défaites de suite. Le match entre Zurich et le HC Ajoie sera à suivre ce soir en direct sur RFJ à partir de 19h30.